Avant d'en terminer pour de bon, comme tout termine ici-bas, Pierre de Ronsard a connu plusieurs variétés de morts. Par épisode ou par éclipse, lui servant ou ne lui servant pas d'expérience, enrichissant ou pas son vocabulaire de poète, en tout cas ne lui accordant aucune immunité. L'immunité est impensable. L'inéluctabilité de la mort est presque toujours un gage de banalité. Alors, ceci dit en passant, il faudrait se lever de bonne heure et tendre loin le bras vers les dernières étagères d'une bibliothèque pour trouver le récit de la deuxième et dernière mort de Lazare. Sa résurrection encore, c'est assez spectaculaire, le régal d'un public de penseurs et de mélomanes. Son témoignage sur l'au-delà doit nous en apprendre beaucoup à nous autres, partis nulle part et jamais revenus, assignés à notre ici de vivant. Mais la deuxième mort de Lazare, tout seul, sans témoin, sans destin, sans mise en scène, ni signification, elle n'a jamais intéressé personne. Son dernier jour. Je veux parler du dernier jour de Ronsard. Et le 27 du mois de décembre 1585, tard dans la nuit, quand le 27 bascule déjà vers le 28, entamant le lendemain de deux bonnes heures. La veille déjà, ou l'avant-veille, le 26 décembre, Ronsard le très âgé, le très fatigué, Ronsard le fragile à qui il faut maintenant 72 heures pour parcourir 7 lieues jusqu'à Saint-Côme, meurt une première fois. C'est-à-dire s'allonge, puis sombre sans vraiment s'assoupir, s'enfonce légèrement en lui-même, perd connaissance et tombe dans ce que les cliniciens modernes nous ont appris à appeler le coma. C'est alors un coma de Merlin pris dans la glace, ou d'Orphée, ou d'Ulysse quand il s'en allait après avoir bu une eau de source noire à la rencontre de l'esprit des morts. Un coma de petit retrait, comme on dirait petit lever du roi, peut-être coma de précaution ou de réserve, ou de renoncement sans aigreur à une existence maintenant léguée aux autres, aux familiers et aux inconnus. Mais quelques minutes plus tard, Ronsard se réveille. Le voilà de retour de sa mort provisoire. Ce n'est pas Lazare à proprement parler, mais le renouveau après la sieste. Les proches rassurés s'autorisent à répéter autour du vieux bonhomme l'analogie mille fois dite et inutile de la mort au sommeil, pour s'en convaincre un peu plus, pour accompagner la légèreté du réveil, même si c'était une sieste et seulement ça, ou le coma comme entre la sieste trop profonde et la mort imparfaite, le retour à la vie tient du petit miracle. Dès son réveil, disent les mémoires, Pierre de Ronsard dicte deux sonnets. C'est ainsi, entre la mort provisoire du 26 et la mort définitive du lendemain, entre deux portes ouvertes de tombeau, Ronsard a eu le temps de composer ces deux sonnets. Les quatrains et les tercets, les rimes masculines et féminines, le triomphe tranquille de la grande forme française. D'autres, à sa place, se seraient lamentés, d'autres auraient perdu le sel et l'eau de leur salive, d'autres auraient attiré la compassion et l'auraient gardé auprès d'eux pour l'emporter, ou se seraient bercés, ou auraient joué les fanfarons, et d'autres auraient demandé un médecin. Mais lui, professionnel jusqu'à la dernière heure, et jusqu'à la dernière minute après sa dernière heure, il fait son métier de poète. Il compose, il alterne A et B, il fait ses césures, Il pense aux hémistiches. Il écarte ses mots. Il en choisit. Il se méfie du e caduc. Il se méfie du est ouvert. Il ne voudrait pas avoir l'air de marcher par inadvertance sur le ventre d'une cornemuse. Il cherche à la fois un timbre de viol et une signification. Il ne divorce ni de l'un ni de l'autre. Il compose ses 14 vers. Il ajoute un 1001e sonnet au sonnet déjà conservé dans ses œuvres complètes et rassemble sa dernière présence d'esprit pour le dicter. Dans quelques heures, il pourra disparaître à nouveau, se renfoncer un peu plus, une fois pour toutes. Les témoins devront reprendre leurs larmes là où ils les avaient laissées, à mi-parcours, quelque part entre le regard et le menton, sur l'arête du nez. Ce sera parti pour les grandes funérailles, des siècles devant soi pour porter le deuil, d'œuvre complète en œuvre complète, reliée et corrigée, cousue dans de la peau avec du fil. Ronsard pourra disparaître. Il a donné ses deux sonnets. C'était sans doute le plus urgent, sans prendre le temps de se demander si un ou deux sonnets de plus, après des centaines d'autres donnés aux hommes pour qu'ils les sachent par cœur, valaient toute cette peine. La question ne se pose pas. L'intervalle de jour entre deux néants était un intervalle de vie. Et le sonnet fait partie de la vie. Il lui est intrinsèque. Le retirer est impossible, ou épuisant, ou vain. Et puis, la vanité du sonnet est moindre que la vanité de l'absence de sonnet. Comme l'ancien Lazare à sa façon, Ronsard est mort deux fois de suite. La première comme un essai ou un avant-goût, la deuxième comme un départ définitif. Il est mort deux fois et même peut-être trois si l'on tient compte de la publication un an plus tôt, en 1584, de certaines épitaphes. Je cite le titre complet. Épitaphe mort et dernière parole de Pierre de Ronsard, gentilhomme vendômois, poète du roi. Une plaquette due, selon certains, je cite toujours, à Dieu sait quel poétaillon ou poéteux ou poétastre, et selon d'autres, à un libraire famélique, à moitié mort de faim, tentant alors de faire fortune sur le dos du grand Ronsard, mort, toujours génial, même posthume. Ce n'était pas difficile de faire courir la rumeur, la maladie était déjà là avec le vieil âge, il a suffi de donner à la figure du poète un petit coup d'épaule pour qu'elle bascule de l'autre côté. Preuve une fois de plus, ou fausse preuve, de la maigre barrière en papier translucide séparant les vivants du royaume des ténèbres. Voilà comment Ronsard est mort à trois reprises, tout comme Till l'Espiègle a été baptisé trois fois. Ce qui fait de lui peut-être, je veux dire de Ronsard, non pas un collectionneur, mais ce genre d'homme un peu plus fatigué et plus calme, habitué au voyage dans des voitures inconfortables, opposant sa résignation, son indifférence relative et son calme à l'impatience de tous les autres passagers, pressés de monter dans la calèche et une fois dedans, pressés d'en descendre. Mais certains diront à ma place, d'avoir éprouvé la mort deux fois avant de s'y présenter pour de bon, ou d'y descendre, comme il l'écrit quelque part, ne donne pas à Pierre de Ronsard ni assurance, ni belle et noble mélancolie de l'homme mûr, ni ce parfait équilibre entre fatigue et disposition de marin Sindbad, rentrer la nuit à la maison, ou l'aube après la nuit. Et disant à tous ses domestiques qu'il attendait depuis des mois, j'ai voyagé. Ça lui apporte seulement les bienfaits de la routine, ne rendant ni plus malin ni plus distant, et faisant de la mort le contraire d'une grande échéance, une altération passagère. Il faudrait avoir recours à toute la rhétorique à la fois de Pindare et de Pétrarque pour redonner à la mort son caractère définitif, comme une borne située à l'opposé de la borne de l'amour et du désir. Ronsard, au deuxième ou au troisième jour de son voyage d'agonisant, s'imagine s'avancer à la rencontre de la mort comme deux habitués, lui l'habitude de mourir, faisant de l'agonie une manie fâcheuse, elle l'habitude de Ronsard, le voyant paraître et reparaître, passer et repasser sous ses fenêtres, si jamais son royaume a des fenêtres. La mort, de fait, côtoie Ronsard. Elle est une présence modeste. Elle se contente de quelques signes, de petits symptômes. Elle sera bientôt une absolue interruption, mais curieusement, l'un n'empêche pas l'autre. À la dernière minute, elle apparaît là où elle se tenait en vérité depuis toujours. Muettement. Dans le bois d'une table, dans la cire du bois, dans l'épaisseur du papier, dans le col de la fourrure, dans la laine écrue, dans le fil d'une tapisserie grossière, dans la barbe qui attend d'être faite, dans une charnière, dans une moitié de pomme mise de côté à la cuisine pour le lendemain. Dans tous ces morceaux de vie immobiles ou dotés d'un mouvement si lent qu'on peut lui accorder notre indifférence. Toutes les taches de lune au dos de ses deux mains, sans conséquence, sans alarme. Elle pourrait être un signe de vie en plus d'une marque de vieillesse. Un reste de la peau dorée et incertaine des nouveau-nés. Elle pourrait se perpétuer sans raison pour elle-même. Il y aurait alors dans la mort, si par chance c'est celle de notre vieillesse, cette fatalité entièrement dépourvue d'effroi, ajoutant promesses et menaces du jour qui vient après des milliers d'autres. Dans le monde de Ronsard, dans ses pages, on rencontre bien souvent la mort, mais comme l'ornement de l'érotisme le plus simple, ou comme sa grammaire, ou une partie de sa grammaire. On rencontre la mort des faits divers et des massacres, celle des guerres de religion, des maladies, des tempêtes rencontrées entre la France et l'Angleterre, des souvenirs de la grande peste, pas si lointain, ou d'Azincourt, la mort infligée par ou pour les Bourguignons. On rencontre la mort de Cour, la mort des 2 millions du roi, deux d'un seul coup, pour ne plus savoir à qui s'adresser les chagrins. Selon quel protocole, et pour accompagner ces morts de cour, de sa parole de courtisan, des poèmes de circonstance. Dans l'un de ses derniers vers, mon corps s'en va descendre où tout se désassemble. Ronsard semble reconnaître la mort comme la toute dernière anatomie, un excès de distinction peut-être. L'excès de générosité dans la distribution d'un corps devenu le pourvoyeur dissolu, non intègre, trop prodigue de reliques pour le jour où les poètes seront adorés en même temps que les saints. Le royaume des morts est le lieu des dernières débauches de Sardanapale, suivi de l'incendie de sa fortune, quand plus rien ne tient à rien, au titre de luxure et pour un suprême désengagement des choses. Ni les hommes, ni les femmes, ni les fortunes, ni le compte des fortunes à l'unité près, comme si l'incendie suivi de la dispersion des cendres devait toujours achever une vie d'appropriation et de rassemblement. De fait, ce monde de mort éclairé au flambeau de pois résine ressemble par moments à la dernière grande fête orgiaque de Sardanapale, telle qu'on finira par la représenter. Mon corps s'en va descendre. La mort est un commerce corporel On l'illustre par des danses macabres, contraires aux abstractions délicieuses mais impalpables et du coup non envisageables. Elle est aussi bien la rencontre du corps avec lui-même, une vaste tautologie négative, et avant le désassemblage, une sorte d'union fatale, soi devenu récipient de soi, un soi gigogne à l'infini, sans jeu ni distance, sans beaucoup d'espace pour respirer ou composer des vers plus ou moins fabuleux. Non, l'identification parfaite, massive, abrutie, d'une cohérence ne menant à rien d'autre. La certitude sans ébranlement est la pierre glaçante des gisants. Percevoir le désassemblage au-delà de l'impressionnant monolithisme de la mort, c'est faire preuve d'une énergie, d'une invention de vivant à travers la tombe, ou à partir d'elle, en se servant du carré de la fosse comme du cadre d'Alberti, à partir de quoi les peintres, paraît-il, contemplent l'histoire du monde. Tout se désassemble. L'incohérence et les adieux, ou pire, des séparations sans adieu, sans au revoir suffisamment courtois, séparations suivies du morcellement des êtres, de l'étrangeté de soi à soi, du renoncement à toutes ses parties comme on a renoncé à ses dents l'une après l'autre au cours d'une longue vie de morsure, et l'éparpillement des pensées, l'effeuillage qui sera à son tour une version dérisoire des danses macabres. La recombinaison des particules selon les lois de Lavoisier, les lois futures, le fameux tout se transforme, proche parent du tout se désassemble, faisant de nous des créatures impermanentes, à combustion lente, se corrompant plus lentement encore et sublunaires. Comme d'autres, au même moment, pas forcément des fossoyeurs, des maussades ou des préfigurations de jansénistes, Ronsard avait poussé la coquetterie de l'intellectuel jusqu'à se préparer à mourir, selon l'idée qu'il se fait de la disparition. Si ce monde défunt est le lieu d'un incessant désassemblage, le sage anticipe la division de toute chose. Il le fait parfois avec déchirement, parfois avec légèreté, se dépouiller pouvant devenir un passe-temps frivole. Il dit adieu à ses mèches de cheveux. Elle lui rappelle la petite tonsure des ordres mineurs quand il était jeune. Il dit adieu à quelques-unes de ses dents, ses préférées, avec qui il a partagé tant de repas. Certaines sont parties en emportant avec elles la douleur, ce n'est pas dommage. Il dit adieu à son ouïe. Il lui a dit adieu depuis longtemps, sa surdité était précoce, le monde lui parvient à travers un nid d'hirondelles. Il dit adieu à la lumière, il pourrait maintenant donner ses deux yeux au tronc des pauvres, il tomberait en faisant tout au fond un bruit de billes de plomb, l'offrande ne lui coûterait plus grand-chose. Il se défait de ses muscles, de ses emportements, des bourgeons et des fleurs de mai. Il se défait de ce que Vésale appelle la liqueur séminale et qui s'est envolée un soir, une dernière fois, une fois pour toutes, par inadvertance, alors qu'il avait la tête ailleurs. Il dit adieu à ses 10 doigts, au toucher de ses 10 doigts, et bientôt au reste de son anatomie, qui s'en ira discrète, elle aussi. Une infidélité de chat passant par la chatière ou de vieilles chaussettes disparues sous le lit, un lit monumental, une toute petite chaussette. Il se désassemble. Quand il monte dans sa voiture à cheval et se fait voyager sur 200 ou 300 mètres, il se désassemble encore un peu plus. On dirait un sac de voyage trop large, rempli d'un peu trop de trop peu de vaisselle en fer-blanc. Il se désassemble et pendant ce temps, il réunit ses œuvres complètes. On ne connaît personne à cette époque pour prendre autant de soin de ses écrits. Peut-être parce qu'ils sont des sonnets, ils s'écrivent sur des feuilles volantes et des pages de carnet, on les copie, on les altère en les copiant. Il devient alors indispensable de les tenir ensemble pour leur donner une chance de ne pas se perdre, pour maintenir l'illusion ou la réalité représentée par l'illusion d'une œuvre unique, liée par un seul fil. cousue dans d'une seule peau, rendue plus cohérente encore par la fiction d'un seul auteur, la fable de sa biographie, depuis ses années de petits pages à la cour, son voyage en Écosse, sa petite tonsure, les maladies chroniques, ses traductions d'Homère, le collège du Coqueret, la rencontre avec le Tasse, jusqu'à l'âge où il demande quatre petits coussins aux quatre coins de sa dernière voiture. Ronsard pourra aller humainement, chrétiennement et matériellement se désassembler sous terre. Il pourra y jouer aux osselets en toute tranquillité. Il a l'assurance de laisser au-dessus de sa tombe la septième édition de ses œuvres rassemblées, corrigées, relues, sans veuve ni orpheline, façon de rappeler la supériorité de l'écrit sur l'auteur. Dans ses derniers jours, selon Thomas de Quincey, Emmanuel Kant, devenu très ancien de son vivant et faisant de la sédentarité, à sa manière kantienne, une cérémonie quotidienne, avec un enfant de cœur, son domestique et quelques ustensiles, une tasse de café par exemple, Emmanuel Kant exprime le désir, comme Pierre de Ronsard 2 siècles plus tôt, d'accomplir un dernier voyage, un tout petit. Voyager signifiant pour Kant quelque chose comme enfiler son manteau, demander à un domestique de déplacer une valise d'ici à là, sans considération de son poids, puis regarder par la vitre de sa chambre défiler un certain paysage, mouvant mais sans cesser d'être familier. Il grimpera dans une voiture à cheval, la trouvera trop haute, regrettera les suspensions, se blottira dans sa fourrure, tentera de se placer à l'intérieur d'un intérieur, puis au bout de quelques centaines de mètres, éprouvera à la fois le mal de mer et le mal du pays. On fera demi-tour. Et Kant, fatigué par ses périples, passera le reste de sa journée à régner sur sa chambre, dans son fauteuil ou depuis son fauteuil, seigneur des après-midi. En 1585, le vieux Ronsard, qu'on croyait déjà mort, veut bien être à la fois sédentaire et promeneur lui aussi, en combinant les deux plaisirs de l'immobilité et du déplacement. Il commande pour son usage une voiture de coche avec des sièges rembourrés et suffisamment d'oreillers, d'estamés, remplis de crins pour se donner une illusion d'immobilité en plein voyage sur la route. Il faut imaginer le vieux poète à 1 000 sonnets dans sa voiture, serré par une douzaine d'oreillers, comme une babiole, et malgré ça grinçant de toutes parts, tournant doucement la tête vers la portière pour comparer le paysage d'hiver à son intérieur de véhicule rembourré sur 6 épaisseurs. On dit que Pierre de Ronsard mettra une semaine entière à se rétablir d'un voyage de 7 lieues. Ronsard nous a laissé des diminutifs devenu un élément précieux de notre patrimoine, précieux et simple, simple au sens jardinier du terme, et discret, mais doté d'une certaine clarté indirecte, comme les reflets du bic de verre. Il y a eu la melette, la selette, la mignonnette, l'herbelette, la gambelette. De même qu'à une époque lointaine, pas si lointaine, il y avait l'animula, vagula, blandula de l'empereur Adrien, la conscience de la petitesse des choses, une certaine petitesse, et pour certaines choses, ou au lieu de la conscience, la recherche de la petitesse, la chasse minuscule. Et si ce n'est la chasse, l'affirmation en détournant provisoirement pour son propre compte les pouvoirs du discours, une partie seulement de ses pouvoirs. Adrien avant Ronsard déclare la petitesse pour recevoir d'elle en retour une consolation, une leçon au sujet de l'existence, vaste dans un monde vaste, et pour en faire un motif agréable. Sa discrétion à la limite de l'inutilité et l'inutilité à la limite de l'ornement. La petite âme comme une petite fibule et l'idée qu'un vêtement entier en dépend. Il faut supposer Ronsard assez lucide, mais assez candide pour désirer convoquer autour de lui, sous une forme purement lexicale, ces diminutifs qui ont contribué à sa gloire, et mieux que la gloire, contribué à un après-midi de bonheur éphémère, peu explicable, presque parfait, il y a longtemps, le jour de la visite d'une amelette et d'une mignonnelette. Il en voudrait encore à présent. Ajouter des suffixes en ette à toute chose, au nom commun et au nom propre, au titre de famille, à la mort. Il y a tous les noms de la mort, les noms drapés, sonores et sourds dans l'ombre portée d'un moulin à vent et qui paraissent toujours écarter les bras pour nous contenir. Elle deviendrait quoi, la fameuse Camarde, sous le nom de Camardelette? Une voisine entreprenante et indésirable? La faiseuse d'anges, l'accompagnatrice des mourants, comme il en existe en Sardaigne, mais alors immature et maladroite, soufflant trop tôt sur la bougie? Ou une de ces entremetteuses dissimulant toujours un jupon sous le jupon et différentes clés dans des poches invisibles et un métier sous un autre métier. L'amelette, ronsardelette, renonçant à toute forme de méfiance alors que tremble la flammelette et qu'avance l'ombrelette, croit reconnaître dans une rime délicate, si française, un air de famille et la promesse d'une certaine hospitalité. Nocturnelette. Le diminutif est un mot doux, une sucrerie de gentilhomme ou dame oiseau à la damoiselle, un raffinement d'origami, une précaution de feuilles d'or pour des enluminures et de souffle retenu tout le temps que ça dure, ou l'affirmation d'une familiarité sans gêne, sans manière, au-delà des terres habituelles de la familiarité. Après avoir fait de son objet d'amour une dame lointaine, le poète amoureux se donne en deux ou trois mots la possibilité d'un rendez-vous sans en passer par aucune duègne, aucun portier, aucun grand-oncle de la famille, ni aucune salle d'attente. Ou c'est une modestie, la modestie de soi appliquée naturellement à tout son entourage, comme on irradie de bonheur dans les romans, par contagion. Et avec un brin d'autorité. Ou bien c'est pour exorciser une crainte, elle aussi vaste comme l'existence, mais insuffisamment vaste dans un monde plus vaste encore, pour adapter les échecs, les procès et les abîmes à une échelle humaine, autrement dit, faire de l'amour et de la mort un enchaînement de petites marches. Ronsard compte aussi sur le pouvoir de l'auteur, qui est pure hypocrisie, talent de rhétoricien, vieille ficelle de poésie ou jeu de mots d'auberge de la même famille que les jurons et les insultes. Il espère bien faire danser les maîtresses séduites et non séduites, ravies ou évadées, sur une toute petite scène, pour prétendre s'en montrer le directeur. Mais dans le costume d'un dompteur de puces, il espère faire danser les âmes et la mort pour les mêmes raisons, pour se donner au moins le titre de grand orchestrateur de drames joués dans des amphithéâtres de la taille d'une assiette à dessert. Et c'est pour faire semblant, pour devenir une musaraigne et porter sur le monde un regard de musaraigne. Élever le détail au rang d'immense poncif. honorait toute chose en lui accordant une petitesse d'objet de cabinet de curiosité, en réinventant l'intimité et en l'offrant à des concepts abstraits, sans cela nébuleux et vulgairement grandiose. Pour retirer par exemple au néant tout ce que le néant peut avoir d'emphatique, en l'appelant néantelé, en faisant de la disparition une aventure éternelette suivie d'une danse macabrelette entre les vivants et les morts. Il aura des sièges rembourrés de crin, des oreillers glissés entre ses reins de vieillard fragile et la dureté d'un véhicule sur les routes de l'époque, ou bien la dureté des routes elles-mêmes. Il aura ses arts diminutifs, les petits noms donnés aux objets et aux créatures pour les saisir sans refermer sur elles une quelconque autorité propriétaire. Il a déjà la certitude de ses 1 000 sonnets à l'abri dans des œuvres complètes, la certitude de mourir au titre de poète d'une nation entière. Il s'attend à d'autres surprises. Il sait ne pas avoir fait le tour des choses. Sa poésie, comme toutes les poésies sans doute, se présente aussi comme le catalogue discret de ce qui nous échappe. Un mot ici, un mot là, une énigme, des amours, les détails de l'amour, les souvenirs faits d'oubli et de reconstitution et d'images traîtres à la réalité qui prenait la fuite. Et maintenant, c'est à son tour de nous échapper en prenant sa petite fuite. Ronsard des amours, ronsard de la bibliothèque et de la cour, ronsard de la langue française et de la couleur vermeille chapardée à une intimité sans doute imaginaire, mais notée sur une page pour qu'on s'en étonne des siècles plus tard, indéfiniment, en son absence. Ronsard, s'envolant au séjour des choses supernelles, ronsard de Catulle et de la mort de Marie, fait partie d'une réalité fuyante. À nous de la dénommer pendant qu'elle prend la fuite, un peu avant, un peu après, ou sur le moment. Je vous remercie.